Vous écoutez un podcast de l'Académie saison 4 proposé par le Mouvement des entreprises de France. Pour toute question liée à cet enregistrement, rendez-vous sur le site l'academiemedef.fr. Bon podcast à toutes et à tous.
Bonjour à tous, donc, je suis Stéphanie Tizan, en charge de la commission Souveraineté et Sécurité économique du MEDEF et je suis ravie de vous accueillir dans une nouvelle séquence du cycle Sécurité économique de l'Académie MEDEF. Donc une thématique aujourd'hui qui est de s'organiser en entreprise, puisque face à la multiplication des crises et des risques qui impactent les entreprises, les directeurs et directrices sécurité et sûreté sont au cœur des enjeux actuels et à venir. Et aujourd'hui, on peut dire qu'aucune entreprise, quelle que soit sa taille, ne peut faire l'économie d'une réflexion sur ce sujet pour adapter son organisation, ses outils et ses activités. Donc pour parler de ces problématiques, nous vous proposons ce matin un échange très privilégié sur ces enjeux avec un directeur et une directrice sécurité sûreté au parcours très différent et qui évolue aussi dans des secteurs et activités très distincts. Donc Anne Picot-Périac, vous êtes donc directrice sûreté du groupe Atos Eviden et administratrice du club des directeurs sûreté en entreprise, et Aurélien Lambert, donc chief security officer du groupe Aegis. Donc je vous remercie de votre présence ce matin. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je passe la parole à Marc-Antoine Bindler, qui est secrétaire général du CDSE. On aime bien les acronymes, donc je vous laisse préciser exactement le périmètre de votre structure. Et j'aurai le plaisir d'animer donc les échanges de la matinée avec Marc-Antoine.
Et merci Stéphanie. Donc oui, CDSE, c'est un sigle qui veut dire Club des directeurs de sécurité des entreprises. Qu'est-ce que le CDSE brièvement? C'est une association à but non lucratif qui a été créée en 1995 et qui prend la forme d'un club d'entreprises. Ce sont les entreprises qui adhèrent chez nous avec un prérequis d'avoir un directeur ou une directrice sécurité-sûreté, donc une direction sécurité-sûreté. Donc nous avons principalement des grandes entreprises, plutôt CAC 40, SBF 120, qui sont représentées chez nous par leur directeur de la sûreté. Ces directeurs de la sûreté choisissent d'ouvrir les travaux du CDSE à leurs collaborateurs, ce qui fait que le CDSE aujourd'hui, c'est un réseau d'environ 630 directeurs et collaborateurs et 120 entreprises membres. Le but du CDSE, c'est d'échanger ensemble sur ces sujets qui touchent à la protection des entreprises, tant sur le plan du patrimoine matériel qu'immatériel, avec des échanges informels, mais aussi au sein du réseau, entre professionnels de la sécurité et sûreté, mais également au sein de commissions de travail. On a 14 commissions de travail thématiques sur des sujets assez variés, tels que la surveillance humaine, c'est-à-dire la sécurité privée, la cybersécurité, la formation, les Jeux Olympiques, la gestion de crise. Et donc le CDSE sert dans cette dimension à faciliter les échanges et la réflexion entre ces professionnels de la sécurité sûreté en entreprise et porter le fruit de cette réflexion auprès des pouvoirs publics et des différents acteurs de l'entreprise. Donc on entre dans le vif du sujet avec nos deux intervenants. Est-ce que vous pouvez chacun de vous, vous battez pas pour commencer, nous présenter votre parcours, votre fonction et son périmètre au sein de l'entreprise et peut-être votre positionnement par rapport à votre COMEX en tant que directeur et directrice.
Bonjour à tous. Donc moi j'ai commencé ma carrière dans des PME-PMI en pilotage de projets informatiques avec des questions de protection de l'information avec des pays en guerre, des questions de forfaitisation et d'offshoreisation. En 2004, j'ai intégré le groupe Atos en tant que client security manager pour harmoniser les pratiques et pour garantir la sécurité de bout en bout sur des programmes multisites avec la France, l'Espagne, le Maroc, l'Inde, la Chine. En 2011, je suis devenue Chief Security Officer sur le périmètre de la France et j'avais à cœur de sécuriser le patrimoine matériel et immatériel du groupe sur ce périmètre. À ce titre, j'ai géré des crises comme WannaCry, NotPetya, les inondations ou les attentats avec les équipes. C'est ce qui m'a donné envie de poursuivre sur la protection des biens et des personnes et j'ai pris la direction de la sûreté du groupe en 2017. Mon périmètre, à l'heure actuelle, c'est avant tout la protection des collaborateurs, on en a à peu près 110 000, où qu'ils soient, donc qu'ils soient en télétravail, en déplacement entre leur domicile et les bureaux, chez les clients, en voyage, en expatriation. Donc on a un volet fort sur la thématique de la sûreté internationale. J'ai également la protection des sites. Donc, on est présent dans 70 pays, avec tout un volet autour de la veille, de l'anticipation des situations dans les différents pays, avec la gestion de crise et la continuité d'activité, tout ce qui est lié à la communication et à la sensibilisation, justement, sur le risque. Et puis, depuis peu, la santé est aussi dans mon périmètre. Je suis hiérarchiquement rattachée à la DRH, qui est membre du COMEX, et j'ai un accès direct au président et aux membres du COMEX. Voilà, on a établi une relation de confiance.
Aurélien. Bonjour à tous, et puis déjà merci de nous recevoir aujourd'hui au MEDEF pour parler de ces sujets qui nous passionnent. Donc pour ma part, Aurélien Lambert, je suis directeur sûreté du groupe Aegis. Alors je vais tout de même présenter rapidement le groupe Aegis, parce que peut-être moins connu que le groupe Atos. Donc c'est une société de 18 000 collaborateurs présente dans 120 pays qui fait de l'ingénierie et de l'exploitation d'infrastructures. Donc mon périmètre recouvre à peu près la même chose que celui de Anne, puisqu'il s'agit de sûreté, de santé-sécurité, de gestion de crise, de protection de l'information, principalement. Et j'ai un reporting direct, alors légèrement différent, puisque c'est à la fois au CEO et à la DRH, à la fois pour couvrir les aspects de protection des personnes, mais aussi des aspects peut-être un peu plus transverses parfois. Ce qui me permet de les voir tous les deux très régulièrement et donc qui est naturellement très aidant. Ils sont tous les deux membres du COMEX. Naturellement, donc j'ai plutôt une relation régulière, puisqu'il s'agit à la fois d'aller présenter la stratégie, de faire des points d'étape sur la stratégie de sûreté, de sécurité, mais également parfois de les informer quand il se passe quelque chose, comme par exemple le tremblement de terre au Maroc la semaine dernière, encore il y a 10 jours déjà désormais. Alors initialement, je viens de l'institution militaire, comme beaucoup de directeurs sûreté. J'y ai passé 5 ans, donc je n'y ai pas non plus fait une carrière très longue. Ensuite, j'étais consultant à l'international, où j'ai pu aller soutenir différents types d'organisations, que ce soit des ONG, des grandes entreprises ou des institutions qui faisaient face à des situations difficiles dans des pays souvent à risque, donc en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique latine, beaucoup. Et en 2014, j'ai pu rejoindre le groupe AXA dans ma première expérience corporate en tant que directeur sûreté. J'y ai passé 7 ans et depuis 2 ans et demi désormais chez Aegis. Et à côté de ces fonctions passionnantes, j'ai aussi la chance d'enseigner à Sciences Po sur ces sujets-là, sur les sujets de sécurité économique, de sécurité internationale au profit de Sciences Po.
Merci. Avant de poursuivre, peut-être on utilise... Vous avez utilisé d'ailleurs dans vos présentations les termes de sûreté et de sécurité qui recouvrent quand même des périmètres différents. Enfin, on ne peut pas vraiment les utiliser de façon, alternative. Est-ce que vous pouvez nous donner une petite définition de ce que ça recouvre, peut-être que ce soit dans les métiers ou les activités est-ce que ça vous paraît utile de distinguer ces deux champs c'est le cas parfois dans certaines sociétés. Une petite définition peut-être, si vous en avez l'opportunité.
Bon, je pense qu'on sera tous les deux d'accord pour dire que c'est absolument crucial de bien définir ces deux mots, hein, puisque généralement, dans notre domaine, et on va voir qu'il y a différentes définitions, mais dans notre domaine quotidien, on utilise le mot sûreté pour tout ce qui est protection contre la malveillance, donc généralement crime, terrorisme, instabilité politique et sociale, et le mot sécurité pour tout ce qui est protection contre les risques accidentels. Donc ça va être l'incendie, la chute, les accidents de trajet. Donc je pense qu'on se retrouvera sur cette définition. Néanmoins, en français, il y a souvent des confusions et des mélanges, puisqu'on parle par exemple de cybersécurité, alors qu'on est typiquement sur l'intentionnel, donc on devrait plutôt parler de sûreté. On parle de sécurité économique, alors qu'on est là aussi sur de l'intentionnel. Et on parle de sûreté nucléaire pour parler d'accident nucléaire. Donc il y a un mélange de définitions liées, je pense, à l'origine à une traduction de l'anglais entre security et safety, qui n'est pas forcément simple à appliquer au français. Tu partages cette définition?
Oui, je partage complètement. L'approche risque fait que ben, finalement, on va prendre en compte toutes les vulnérabilités, toutes les menaces des assets, que finalement l'origine du problème soit accidentelle ou malveillante, qu'un ordinateur soit volé ou qu'il soit perdu. En fin de compte, c'est la perte de données pour l'entreprise et c'est des mesures type chiffrage de l'ordinateur qu'il faut mettre en place.
Oui, donc ça regroupe la protection des collaborateurs, mais effectivement la protection des assets. Et en fait, les deux se recoupent, comme l'expliquait très bien Anne, puisqu'il y a des interdépendances entre les deux.
Merci.
On revient brièvement sur les parcours. Aujourd'hui, une large majorité des directeurs et des directrices sûreté ont un parcours dans le régalien. Pour quelles raisons on reste sur cette majorité du régalien?
Alors, je vais enfoncer des portes ouvertes, certainement. C'est sûr que les termes sûreté, sécurité, on va penser protection, donc on va penser police, gendarmerie, rigueur, respect de la confidentialité, appétence pour le risque, avec un réseau spécifique qui peut être très utile en cas d'événement particulier. Donc voilà, spontanément ma réponse.
Oui, ça se recoupe également de mon côté, et puis une capacité à se mettre en relation donc facilement avec les autorités, puisqu'en y ayant travaillé, on connaît le vocable, on est capable d'aller voir les bonnes personnes, donc ça facilite grandement les choses, c'est vrai, quand on est passé par l'institution. Mais, et la présence d'Anne le montre bien, ce n'est absolument pas une condition nécessaire. On peut très bien venir du business, venir d'autres horizons pour prendre ce type de fonction.
Et justement, c'est quoi finalement les avantages et les forces d'avoir un parcours très entreprise en fait comme directrice sûreté?
Alors déjà, c'est une bonne, très bonne connaissance de l'organisation, des acteurs, de l'activité, les contraintes opérationnelles, les notions de délai, de temps. Pas forcément les mêmes privés publics. Il y a aussi des notions de contraintes culturelles. J'ai énormément travaillé avec des pays comme l'Inde, l'Europe, les États-Unis. Un oui à Paris n'est pas forcément un oui ailleurs. Donc voilà, ça fait partie des choses qui sont intéressantes. Ensuite, c'est une bonne connaissance des modes de communication en interne. Le PowerPoint, d'un exécutif summary, ça facilite. Après ça, oui, il y a tout ce qui est exigence des clients qui est utile. Moi, j'avoue que suite aux attentats, j'ai senti le besoin de mieux comprendre comment fonctionnaient nos autorités et j'ai suivi un cursus à l'INESJ à l'époque hein, qui est devenu IHEMI. Donc, grâce aux formations, on peut justement équilibrer. Moi, je voudrais simplement dire que la richesse, finalement, d'une direction sûreté, elle vient de la diversité de ses membres. Donc, plus on peut avoir, justement, au sein de l'organisation un mixte, avec des hommes, avec des femmes, avec des jeunes, avec des profils plus expérimentés, connaissances métiers, régaliens, multiculture, on va gagner en efficacité et on va gagner aussi en idées. Face à un problème, on va voir les choses complètement différemment et de façon complémentaire.
Moi, je suis tout à fait dans la même lignée que ce que vient de dire Anne. Bon, il faut pas oublier que une institution publique n'a pas la même finalité qu'une entreprise privée et ce qui amène à ces différences de culture, à ces différences de management qu'on retrouve entre les deux, et ce qui nécessite généralement pour les militaires quand même un certain temps d'adaptation. Et je l'avoue moi-même, il m'a fallu quelques années quand même pour me civiliser entre guillemets, pour pouvoir pleinement m'intégrer dans une structure privée, puisque les logiques, les temps, les approches sont tout de même assez différentes.
Donc vous avez tous deux mis en place une politique de sécurité globale dans vos entreprises respectives. Est-ce que vous pouvez préciser un petit peu ce qu'est une telle politique, son périmètre, et comment vous interagissez avec les autres départements de votre organisation, je pense notamment au juridique ou direction internationale, ce genre d'autres départements? Merci.
La politique sécurité ou sûreté globale, pour moi, elle est globale sur trois points différents. Il y a déjà sur les sujets, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas que d'un seul sujet, mais de plusieurs sujets qu'on va traiter de manière cohérente ensemble pour être plus efficace dans la manière dont on va les traiter à travers l'organisation. D'où souvent les regroupements des sujets de sûreté, de gestion de crise, de santé, sécurité, de continuité d'activité. En fait, tout cela sont interdépendants et donc c'est plus efficace si on est capable de les traiter de manière holistique. Ensuite, le deuxième aspect, c'est le sujet de l'étendue géographique et juridique de l'entreprise. Donc, être sûr que ça s'applique à travers l'entièreté de l'organisation. Donc, elle est globale aussi dans ce sens-là. Et enfin, pour protéger toutes les composantes de l'entreprise, on a naturellement un focus particulier sur les personnes, qui sont la première richesse d'une entreprise, mais également sur ses biens, ses opérations, ses finances, sa réputation, son intégrité juridique, etc. Donc elle est globale pour moi vraiment dans ces trois aspects-là, et elle nécessite donc par nature d'être vraiment en relation quotidienne, de bonne compréhension avec les autres départements, et effectivement RH, juridique, communication, affaires publiques, IT sont des interlocuteurs au quotidien, et donc il faut pouvoir s'aligner ensemble pour vraiment mettre en place une politique globale de sécurité et de sûreté.
Oui, alors pour compléter, oui, je reviens un petit peu sur le cadre de nos interventions. On s'inscrit vraiment dans le devoir de protection des collaborateurs, le devoir de vigilance, avec une obligation d'être conforme aux lois. Et plus on a de pays dans son scope, plus ça peut être compliqué, et surtout quand on parle de sanctions internationales. Nous, on a pris aussi le parti de prendre des normes ISO, et spécifiquement la norme ISO 27001, qui est une norme internationale de sécurité des systèmes d'information. L'avantage de caler à une norme, c'est qu'elle est reconnue, connue par nos clients, par nos fournisseurs, et qu'elle permet d'établir un référentiel fondamental unique, qui garantit la même approche, et qui garantit également de s'inscrire dans une boucle de Deming, la route Deming, avec le Plan Do Check Act, qui fait qu'on va décrire ce qu'on fait, on implémente, on forme les collaborateurs, on audite, et forcément, on le remet en question dans une boucle d'amélioration. Alors, comment on implique les métiers? Eh bien, en fait, le point de départ, c'est de faire une cartographie des processus métiers. Donc, chacun va expliquer comment il travaille. Ensuite, on va extraire les processus fondamentaux, et on va regarder de quels actifs on a besoin pour réaliser ce processus de bout en bout. Bien souvent, on va arriver aux personnes, au site, et puis, vu notre activité, du soft et du hard. Ensuite, on regarde toutes les vulnérabilités, toutes les menaces, pour commencer une démarche d'approche de risque. Et puis, on va ensuite regarder les mesures qu'on peut mettre en place et le risque résiduel. C'est à partir de là, on va associer ce risque résiduel avec le retour des incidents, les tendances, les cauchemars du COMEX. Et tout ça va donner un état du risque avec un plan de correction, des politiques qu'on veut déployer, un plan de sensibilisation. Et de fait, d'avoir embarqué dès le départ la cartographie des métiers, on implique de fait les métiers et toutes les fonctions support ou stratégiques suivant l'appellation. Donc on est vraiment aligné avec le management, et la boucle d'amélioration fait que, de toute manière, on va se remettre en cause régulièrement.
On voit une fonction, une fonction transversale. On a un membre du CDSE qui parfois parle du directeur sûreté comme du numéro 10 d'une équipe de foot. Je me permets une petite métaphore footballistique, alors que nous sommes en pleine Coupe du Monde de rugby. Anne, vous l'avez un petit peu abordé déjà sur cette direction sûreté qui se place au service du business. Mais comment cela se passe concrètement? Comment est-ce que la direction sûreté est au service de ce business et finalement apporte de la valeur aussi?
De fait, avec cette boucle d'amélioration, on est tenu au quotidien d'examiner les retours qu'on a du terrain, de l'extérieur. C'est aussi pour ça que le groupe est un membre actif du CDSE, pour pouvoir échanger avec les pairs. Ensuite, il y a un certain nombre d'événements, d'incidents qui font que on va faire évoluer ce dispositif, que le business va évoluer et qu'on va vraiment l'accompagner. Les politiques, elles supportent le business, elles l'accompagnent, elles sont pas là pour être un frein. Ça donne un cadre et ça s'assure qu'on travaille tous de la même manière en respectant les lois.
Ouais, donc il s'agit de se positionner aussi, évidemment, avec l'accord du COMEX en tant que prescripteur. Donc on définit des règles qui vont être appliquées globalement à travers le groupe, avec une marge d'adaptation évidemment à chaque contrainte locale. C'est aussi une capacité de contrôle, donc il ne s'agit pas uniquement d'écrire des choses, mais de pouvoir aller les vérifier sur le terrain concrètement, s'assurer qu'on réduit efficacement le risque, et aussi une capacité de soutien. Et ça, je pense que c'est extrêmement important pour apporter de la valeur ajoutée aux activités et pouvoir se positionner vraiment en soutien des opérationnels dans le développement du business et, in fine, apporter une valeur sur nos opérations, apporter une valeur à nos clients et donc à rentrer dans une boucle vertueuse qui nous permet de décrocher de nouveaux marchés et de continuer à nous développer de manière sécurisée pour nous et pour nos clients.
Merci. On va aborder désormais la nécessaire diffusion d'une culture de la prévention des risques dans l'entreprise. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire de diffuser cette culture à tous les niveaux de l'entreprise? Et est-ce que vous avez noté une prise de conscience, une évolution dans la prise de conscience ces dernières années avec l'ensemble des crises que l'on a connues?
On a rencontré vraiment beaucoup de chocs ces dernières années. Je pense que pour ceux qui était peut-être moins exposé à l'international, 2015 a été vraiment l'année qui a secoué tout le monde avec les attentats à Paris. À cela s'est ajouté le Covid, ensuite à partir de 2020, et ça c'est plus quelque chose de fond, mais toutes les attaques cyber qui se sont multipliées et qui pour le coup concernent vraiment toutes les organisations. Donc initialement il y avait peut-être un nombre limité d'entreprises qui étaient exposés à ces risques-là, mais aujourd'hui on voit que l'ensemble du tissu économique peut être concerné et doit donc se préparer. Donc pour deux raisons principalement, c'est déjà d'éviter tant que possible l'incident et malheureusement s'il doit arriver, en réduire son impact sur les personnes, l'activité économique de l'organisation, sa réputation, l'impact financier que ça peut avoir. Mais comme je le disais aussi avant, c'est aussi pour créer cette confiance dont ont besoin nos décideurs dans les organisations, savoir que quelqu'un fait attention à ces sujets-là, s'en occupe au quotidien, mais également vis-à-vis de tous nos collaborateurs. Je pense que c'est un atout d'attraction et de rétention pour nos collaborateurs quand on est capable de montrer qu'on fait attention à eux et à leur sécurité dans le cadre de leurs activités. Mais également, donc évidemment, in fine, à nos clients, aux régulateurs, et on le voit de plus en plus présent aussi dans les organismes de notation externe, je pense au DJSI, donc le Dow Jones Sustainability Index, qui intègre de plus en plus ces éléments-là qualitatifs sur la posture de l'entreprise sur ces aspects-là. Donc, et je dirais que enfin, il y a aussi un bénéfice d'efficience pour les organisations qui, quand elles doivent se structurer pour des questions de sécurité, de sûreté, sont obligées de re-questionner un petit peu leur process interne, de s'assurer que les choses sont faites efficacement pour, par exemple, simplement pouvoir capter quand quelqu'un va voyager, donc avoir cette information, mais ça veut dire qu'il faut un circuit de validation, des agences de voyage, enfin tout un système qui se met en place et qui permet d'être questionné aussi par les questions de sécurité et donc d'aller chercher de l'efficience. Et c'est souvent un prisme que je présente également à mes décideurs, ce qui fait un vrai ROI, un retour d'investissement sur les aspects de sécurité à travers les gains d'efficience qu'on peut faire.
Oui, en complément, on est tous acteurs de la sûreté, de la sécurité. On ne connaît pas la prochaine crise. Donc, le seul moyen d'y être préparé, c'est vraiment d'entraîner tous les collaborateurs, vraiment tous les collaborateurs, à détecter ce qu'on nous on appelle des événements perturbateurs et à alerter. Parce que finalement, la différence entre un événement et un incident, des fois, c'est quelques minutes. C'est décrocher la prise du câble pour pas que le virus se propage. Et voilà, il faut lui donner l'œil de « Ah, mais ça, c'est pas normal. » Voilà. Donc ça, c'est de la sensibilisation.
Comment concrètement vous y prenez pour diffuser cette culture de prévention des risques? Est-ce que vous organisez des formations? Comment vous faites évoluer les compétences en interne? On a un contexte global qui touche toutes les industries de pénurie de compétences. On voit que quand même, dans certains domaines, il faut une certaine technicité. Parce qu'au-delà des réflexes que vous pouvez déclencher auprès de vos collaborateurs, il y a quand même des risques, une gestion de risque qui nécessite d'avoir des connaissances particulières. Voilà, est-ce que vous avez un programme en interne de formation? Est-ce que c'est quelque chose que vous intégrez dans votre politique de sécurité et sûreté? Enfin, par extension, ma question aussi va s'étendre au CDSE, puisque je crois que vous appuyez vos membres sur cette thématique. Donc voilà, cet enjeu clé de formation, surtout qu'on mentionne qu'il y a quand même une multiplication des risques, mais sous des formes différentes. On parle aussi beaucoup de désinformation, par exemple. Voilà, comment on arrive à mettre en place des capteurs et finalement à déclencher les bons réflexes chez vos collaborateurs?
Ouais, c'est un volet complet hein, d'une stratégie de sécurité et de sûreté. Donc, il s'agit d'une démarche pédagogique qui ne peut être que progressive. Hein, souvent, historiquement, c'est pas quelque chose de très prégnant à travers les organisations, sauf dans les secteurs qui sont très concernés, comme le secteur de la défense, par exemple. Donc, si je prends mon cas au sein du groupe Aegis, on a défini donc une stratégie de pédagogie à l'égard, enfin à l'intention de tous les collaborateurs, alors qui passe par différents moyens de pédagogiques. Donc, le e-learning est un petit peu l'outil facile qu'on réussit à déployer globalement à tout le monde. Nous, on a mis un objectif à 100%, donc on veut vraiment que tous les collaborateurs suivent ce type de formation pour avoir les réflexes principaux, pour parler un langage commun à travers l'organisation sur ces aspects-là, pour améliorer donc notre culture du risque. Maintenant, on sait très bien tous dans notre pratique du quotidien que les e-learning ont leurs limites, donc il s'agit de passer par plusieurs vecteurs, donc ça nécessite d'avoir des relais qui soient eux-mêmes suffisamment formés, confiants pour pouvoir aller vers les collaborateurs et leur partager des bonnes pratiques, récupérer et analyser des incidents pour pouvoir aussi les analyser, en faire un retour d'expérience et le partager à tout le monde. Ça, souvent, les cas pratiques sont assez appréciés. Et puis, évidemment, l'exercice de crise ou l'exercice d'incident qui permet aussi de faire naître des bons réflexes, que les gens se rendent compte que c'est quelque chose de concret et de prendre les bonnes actions. Donc ça nécessite d'avoir le bon sponsorship. Encore une fois, ça revient au lien qu'on peut avoir au COMEX pour pouvoir déployer ce type de programme. Avoir des relais, et là, ça fait le lien avec la partie talent, parce qu'il faut des gens qui soient formés. Donc en France, je pense qu'on a quand même un pool de talents qui existe et des gens qui ont une bonne expertise d'un point de vue managérial. Sur des sujets techniques, parfois, ça peut être un peu différent. Mais souvent, c'est à l'international qu'on rencontre aussi des problématiques de talent pour pouvoir s'appuyer dans les différents pays, dans nos différentes régions, sur des gens qui ont la même sensibilité que ce qu'on peut avoir en Occident, parce que c'est aussi quelque chose d'assez occidental sur ces sujets-là.
Oui, en complément, sur la partie sensibilisation, c'est, ce qui est pas mal aussi, c'est d'avoir un impact, de toucher le collaborateur. Et on s'est rendu compte en faisant intervenir des intervenants extérieurs, et notamment certaines directions, justement, qui vont véhiculer finalement le même message, mais ils le montrent différemment. Et là où certains messages, vous les passez X fois, on n'utilise pas un Wi-Fi dans un hôtel ou dans un aéroport, ah, il suffit que ça soit un service de l'État qui le dise, et là, c'est appliqué.
Vous voulez dire que maintenant, quand les gens prennent le Thalys, ils font attention à leurs ordinateurs et à leurs conversations ?
Je ne répondrai pas sur cette question-là. Un autre exemple d'une campagne sur cette thématique-là qu'on a fait il y a quelques années, on a remarqué que les collaborateurs n'attachaient plus leur PC. Et donc, on s'est amusé à l'heure de table de passer. Et alors on n'a pas eu l'autorité du COMEX hein, pour les retirer, donc on les a accrochés. Et une personne qui revient à la dernière minute pour prendre son PC pour aller en réunion et qui se retrouve bloquée parce que un abruti a osé attacher, ça le marque. Alors évidemment, on avait bien fait bien les choses avec le post-it, avec un numéro, donc ils appelaient quelqu'un.
Vous n'avez pas changé son fond d'écran, non ?
Non, on s'est pas permis ça. Et du coup, là, voilà, ça l'a marqué. Et je peux vous dire que pendant le mois qui a suivi, je rentrais au siège dans un ascenseur, j'avais tout de suite 4 personnes qui me disaient « Ah mais j'ai attaché mon PC, je te t'assure. » Donc ils sont marqués. Et là, pour le coup, ça a marché plus que tous les posters qu'on ne voit plus. Sur la partie talent, je dirais qu'on a une chance dans les métiers de la sûreté et de la sécurité, c'est que ce qu'on fait a du sens. Il y a des valeurs. Et du coup, c'est attractif pour des jeunes. Donc voilà, les portes sont ouvertes pour les stagiaires, pour les alternants. Bienvenue dans la filière.
Le message est passé. Et donc, Marc-Antoine,
oui, j'apporte juste quelques précisions sur ce que peut faire le CDSE sur ces sujets. Aurélien parlait à juste titre du e-learning. Il y a quelques années, quand c'était un sujet très présent et qu'il fallait éduquer là-dessus, le CDSE a développé un e-learning en marque blanche mis à disposition de ses membres sur l'arnaque aux faux ordres de virement, qui est assez bien fait. Et qui a rencontré un assez bon succès. Alors, il est toujours disponible sur notre intranet. Il faudrait qu'on le rappelle qu'il existe ce e-learning. On le fait de temps en temps, mais voilà, je crois qu'il a bien été utilisé à l'époque et il doit l'être encore dans les entreprises. On l'a notamment mis à jour il y a quelques années avec pour le mettre au niveau des évolutions techniques. On a lancé un gros travail en 2017. La commission carrière emploi formation du CDSE a lancé un gros travail de cartographie des métiers de la filière sécurité sûreté. C'était quelque chose qu'il fallait mener, qu'on avait une idée à peu près des métiers que l'on avait dans la direction sûreté, mais les directions sûreté ne se ressemblent pas toutes. Elles n'ont pas toutes la même taille et elles n'ont pas toutes les mêmes métiers en leur sein. Donc on a fait une très grande étude de cartographie des métiers en 2017 que l'on a augmentée en 2020, 2021, je ne sais plus, pour avoir une idée plus précise aussi des talents, de leur parcours, d'où ils venaient, quels étaient leur parcours de carrière aussi au sein de cette filière sécurité sûreté et leur niveau de rémunération. Ça nous a permis d'avoir une plus grande visibilité sur les métiers de cette filière. Et également sur les besoins en matière de formation. Comment est-ce qu'on évolue mieux dans cette filière quand on est un jeune qui ne vient pas du régalien, que l'on a peut-être un parcours universitaire ou peut-être Sciences Po. Et on a essayé d'apporter une réponse à chaque niveau de compétence dans cette filière pour apporter des offres de formation. Alors, on n'a pas fait une grande cartographie de toutes les offres de formation disponibles en France sur la filière sécurité-sûreté, mais on a tissé un réseau. Dans le milieu académique, le CDSE a des conventions de partenariat. Ça nous a permis en fait de créer cet objet que l'on appelle le panorama des offres de formation du CDSE, qui n'est absolument pas exhaustif ni prescriptif, mais qui nous permet, avec une matrice de compétences à chaque niveau de compétence dans l'entreprise, de proposer des formations qui va permettre de s'acculturer à quelque chose, de monter en gamme. De façon assez précise. Alors c'est un objet, je l'ai ici d'ailleurs, que l'on vient de mettre à jour, je le dis pour les membres du CDSE qui assistent à ce webinaire, parce qu'il est à usage exclusif de nos membres, il est sur notre...
Ça c'est du teasing. Hein.
Ouais, il est sur notre intranet. Voilà, c'est très pratique et je sais qu'il est très consulté par nos membres. Si vous voulez y avoir accès, il faut adhérer au CDSE.
C'est la minute pub.
Ouais, c'est ça.
Merci Marc-Antoine. Si on ouvre un petit peu le champ, on voit que bon, alors la crise du Covid, différentes crises de typologies différentes ont mis en avant les questions de souveraineté et de sécurisation, surtout des approvisionnements. Et donc plus largement l'importance des enjeux de continuité d'activité. Comment est-ce que vous prenez en compte en fait les enjeux de sécurité et de sûreté avec votre supply chain? Est-ce que en termes d'organisation ça a un impact? Est-ce que dans le pourcentage de priorité que vous avez à gérer, ça a pris une ampleur importante ces dernières années? Comment vous gérez cet enjeu important?
Alors, de notre côté, on a beaucoup travaillé hein, sur les plans de continuité. Je dirais que avant Covid, les plans de continuité étaient plus dans les business units. Et donc là, on a remonté la question avec une politique globale. Sur la partie gestion de crise, bon, on était déjà équipés et on était déjà digitalisés entre guillemets. Sur la supply chain, on a mis en place avec d'autres entreprises du secteur une approche qui s'est transformée en politique, qui permet d'avoir une certaine charte pour sélectionner les fournisseurs, avec des exigences de résilience, des points liés à la localisation des données, à la protection des données sensibles. Donc politique qui derrière est revue, relue, fait l'objet d'audits Je sais que certains groupes arrivent à faire une cartographie de leur supply chain qui leur permet de façon très fine de savoir où sont localisés leurs fournisseurs pour, en cas de catastrophe naturelle, être en capacité de savoir bien qu'ils vont manquer de telles pièces et qu'à la place, ils peuvent utiliser telle ou telle filière.
Alors, dans le secteur de l'ingénierie, on a la chance d'être un petit peu moins contraint, je pense, par nos chaînes d'approvisionnement que si on était industriel ou dans d'autres domaines. Je pense que déjà, il faut s'accorder sur le constat qu'on ne peut pas prévoir les crises. L'Ukraine, le Covid, personne les a vus venir. On a senti progressivement la pression monter. Mais par nature, les crises, on ne peut pas les prévoir. Donc, je pense qu'il est important d'apprendre des événements passés. Donc, encore une fois, ces deux événements-là permettent d'identifier certaines vulnérabilités dans les supply chains, dans les manières de fonctionner des entreprises, et de se créer des boîtes à outils. On ne peut pas prévoir, mais par contre, on peut anticiper des moyens qui vont nous permettre de répondre. Et donc, être en mesure d'avoir accès à du conseil médical, par exemple, sans savoir qu'il va y avoir une pandémie, mais qu'on puisse s'appuyer sur des médecins pour prendre des conseils et donc prendre des décisions. Avoir du coup la capacité de travailler à distance nous a beaucoup servi pendant le Covid, mais en Ukraine, et j'y savais plusieurs centaines de collaborateurs, en fait on a pu répliquer, enfin on a pu réutiliser cette capacité-là pour continuer à produire dans un contexte différent. Donc c'est avoir cette boîte à outils, avoir cette flexibilité, avoir cette diversité, là ça revient à la question des profils des gens qu'on peut avoir dans une direction sûreté ou autour, pour pouvoir s'adapter à chaque contexte, identifier ces signaux forts ou ces signaux faibles, ces presque accidents qu'on peut avoir pour nourrir la réflexion et être prêt à un maximum de situations, sans exactement savoir ce qui va se passer.
Pour compléter ma question, aussi, on voit, bon, vous avez évoqué la multiplicité des crises qui se sont succédées. On a reçu aussi le service d'information stratégique et de sécurité économique, le CICE, il y a quelques mois, qui, dans le rapport annuel de la Direction générale des entreprises, fait état quand même d'une multiplication des risques qui impactent les entreprises françaises, avec une multiplication des risques de prédation, parce qu'il y a quand même des tensions géopolitiques qui font qu'il y a une grande concurrence et que les entreprises se retrouvent au cœur de ça. Est-ce que vous, dans votre quotidien, au-delà d'avoir une meilleure conscience et de quand vous regardez les signaux faibles, mais aussi finalement des risques avérés, vous avez observé une recrudescence en fait des risques à gérer au sein de vos organisations? Est-ce que c'est un environnement international que vous ressentez? Voilà, au-delà d'essayer d'anticiper au maximum les signaux faibles, est-ce que vous vous sentez peut-être plus attaqué qu'auparavant par des cyberattaques? Est-ce que les risques d'espionnage, qu'ils soient sur votre territoire ou même dans le cadre de votre réseau, finalement, avec une sensibilité différente selon vos pays d'interaction, est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez au niveau de l'entreprise?
Je pense qu'on sera tous les deux d'accord pour dire que notre quotidien s'est quand même beaucoup accéléré ces dernières années. Effectivement, les menaces se sont multipliées et on pense sortir d'une crise, une autre arrive, d'où les termes de permacrise qui circulent ou de polycrise qui circulent, et en fait on s'aperçoit qu'on passe de crise en crise pour nos organisations qui sont présentes à travers le monde, en tout cas c'est le cas d'Egis, et donc c'est quelque chose qui est devenu très récurrent. D'où aussi une problématique de maintenir l'attention dans cet environnement-là. Il faut pas se laisser rentrer dans une routine et pouvoir identifier les crises qui vont augmenter en intensité ou en impact et pouvoir les anticiper. Mais oui, en termes de fréquence, c'est quand même assez soutenu.
Oui, enfin, je rejoins tout à fait cette vision des choses. Peut-être la définition d'une crise, j'aime bien la définition d'une crise, c'est un événement auquel l'organisation n'est pas préparée à faire face avec ses process tels qu'ils existent. Donc c'est pour ça qu'on va réunir plein de personnes autour d'une table, même virtuelle, pour y faire face avec des différentes fonctions stratégiques représentées. Le Covid, Ukraine, les cyberattaques, tout ça fait que les organisations ont aussi évolué. les processus ont évolué. Et il y a des choses maintenant que hier on aurait géré en crise, que là on va finalement gérer en événement ou en incident, parce que l'organisation a appris à être résiliente.
On voit se multiplier des exercices de gestion de crise, notamment cyber. Est-ce que c'est une typologie de programme que vous utilisez aussi régulièrement au sein de vos organisations pour mettre en condition en fait vos collaborateurs pour justement apprendre à gérer et peut-être à diminuer en intensité après sur ce qui finalement n'est plus une crise. Est-ce que vous confirmez l'intérêt de ce type d'exercice pour vos collaborateurs et vos organisations?
C'est justement ce qu'on disait tout à l'heure, hein, sur la sensibilisation, il faut marquer les esprits. Alors, je suis pas une adepte de les pousser dans la piscine sans explication, certains le font, je le fais pas.
Ça laisse des traumatismes, hein, quand même.
Donc voilà, je préfère un exercice où voilà, il y a un cadre, ils savent qu'ils sont pris tel après-midi, on donne pas le sujet, mais enfin bon, ils savent à peu près à quelle sauce ils vont être confrontés, mais c'est extrêmement formateur. Et au-delà de ça, ça fait, j'aime pas trop le terme, mais c'est aussi le cas, ça fait du team building. C'est-à-dire que des services qui seraient tentés de travailler en silo, là, se retrouvent au-dessus d'une table et commencent à échanger. Et c'est vraiment formateur. Oui, et pareil, on va gagner en efficacité face à un événement imprévu.
Oui, on va créer des réflexes qu'on va pouvoir réutiliser plus tard, et je suis plutôt d'accord avec l'option de pas les jeter dans la piscine. J'ai déjà vu, malheureusement, concrètement, des gens se faire mal sur des exercices un peu trop réalistes. Donc, mon approche est plutôt de cadrer un petit peu les choses pour éviter les surprises, et des fois, ranimer des traumatismes que les gens ont vécu. Enfin, c'est aussi quelque chose qui, individuellement, peut être assez intense.
Je rebondis sur la question de Stéphanie tout à l'heure. Je reprends ma casquette d'homme sandwich du CDSE. Le thème du colloque du CDSE, le CDSE anime un colloque, présente un colloque chaque année sur les questions de sécurité économique. Le thème de l'année dernière était la multicrise, l'entreprise à l'ère de la multicrise. On était vraiment dans le vif du sujet. Cette année, on vous propose en décembre, le 12 décembre, un colloque sur le thème guerre et paix économique, l'entreprise sur tous les fronts. Donc, on va réunir autour de la table l'ensemble des parties prenantes, côté État, côté entreprise, sur ces sujets de souveraineté, d'ingérence, de contre-ingérence, de cyber aussi, et de protection économique de l'entreprise dans ce monde de plus en plus complexe, comme on dit souvent. Je reviens sur notre table ronde, sur nos échanges. Avec nous sur ces webinaires, différents types d'entreprises qui n'ont pas toutes pris en compte déjà ces sujets de sécurité, sûreté, avec une direction ad hoc. Quel conseil vous donneriez à une entreprise qui veut prendre en compte ces sujets désormais, qui veut se lancer dans la prise en compte de ces sujets de sécurité?
Bon, la bonne réponse, c'est de dire qu'il faut aller au CDSE, c'est ça.
Il faut déjà avoir une direction sûreté, c'est pas forcément vite.
Non, mais en tout cas, quand la question se pose, c'est qu'il est effectivement, il est temps d'être proactif plutôt que d'attendre malheureusement d'être acculé par une situation difficile. Et là, les choses deviennent vraiment difficiles. Donc, il s'agit, je pense, d'être proactif d'aller voir les associations existantes, d'aller voir les professionnels sur le marché. Pas forcément se lancer, c'est mon idée, hein, mais ne pas forcément se lancer tête baissée dans la création de quelque chose sans vraiment savoir de quoi il s'agit, mais pouvoir prendre un petit peu de recul, identifier quelles sont exactement, et chaque entreprise, chaque activité aura ses spécificités. Donc pouvoir identifier celles-ci, sur la base de celles-ci, identifier les risques, et donc créer de la manière la plus efficiente possible, parce que ça a tout de même un coût, la direction sûreté ou quelque chose qui s'en rapproche, quelqu'un qui surveille un petit peu ces sujets-là au sein de l'organisation. Mais vraiment, ne pas hésiter à se rapprocher des professionnels. On a, je pense, et ça revient aussi à la culture des gens qui travaillent dans la sûreté sécurité, on est d'accord pour partager, pas toujours sur la place publique, mais s'asseoir et s'entraider, ça fait partie aussi de la culture de notre milieu.
Oui, en complément, je dirais que les services de l'État aussi hein, proposent des livrables très utiles. J'ai en tête l'ANSSI, le CDCS, notamment pour les conseils aux voyageurs. Donc ça, c'est ce que propose la France. Maintenant, d'autres pays aussi ont d'excellents livrables. On peut aussi s'appuyer hein, sur une norme. Le cadre normatif aussi aide à prendre justement les points d'attention. Ça ne veut pas dire forcément aller jusqu'à la certification parce que ça a un coût, mais ça permet de donner un cadre qui est connu, reconnu par les clients et par les fournisseurs.
Donc, analyse de risque, les normes, s'appuyer sur les normes, échanger avec des professionnels. Dans le cadre d'une création d'une direction de sûreté, pourquoi est-ce qu'il est important que cette direction sûreté ou ce directeur, cette directrice, soit rattachée au COMEX ? Vous pouvez nous dire quelle est l'importance de ce lien avec le COMEX ?
En fait, c'est tout simple. Hein. S'il y a trop de strates entre le COMEX et la personne en charge de la sûreté et sécurité, elle n'aura pas les bonnes informations. Donc, elle aura une vision des choses faussée et elle pourra mal, finalement, elle appréciera mal cette notion de risque. Donc la direction sûreté doit vraiment être conçue comme le partenaire de confiance, doit avoir une vision transverse de l'entreprise, des risques, des liens forts en interne, et donc travailler dans un climat de confiance pour être vraiment acteur de la stratégie de l'entreprise.
Et ça revient un petit peu aux trois rôles que je mentionnais tout à l'heure. Il s'agit de pouvoir être prescripteur. Et donc, pour pouvoir être prescripteur, il faut quand même être suffisamment élevé dans l'organisation pour avoir le soutien sur la mise en place de politiques, de procédures globales. Il faut pouvoir contrôler, là encore, il faut pouvoir s'appuyer quand même sur une certaine autorité à travers l'organisation. Il faut pouvoir soutenir en étant légitime. Donc, ces fonctions, enfin ces rôles-là, à travers l'organisation, nécessitent quand même d'avoir un positionnement proche du COMEX. Et effectivement, on a besoin de connaître un petit peu la stratégie de l'organisation, d'être à jour des évolutions pour pouvoir travailler efficacement.
Une petite entreprise qui n'a pas forcément les moyens de mettre en place des ressources humaines dédiées pour une stratégie de sécurité. Donc, je suis dirigeante d'entreprise. Vous avez un peu répondu à la question par rapport à ce qu'il faut, enfin, les gens vers lesquels on peut se tourner. Les premières étapes. Vous l'avez mentionné, c'est de l'analyse de risque, c'est quoi ? C'est de lancer un peu une veille, d'essayer de se lancer dans une analyse de son écosystème avec un regard un petit peu différent. Est-ce qu'il y a des outils pour suivre une actualité ? Est-ce que vous avez des conseils un peu plus ciblés pour une petite structure qui essaierait quand même d'élaborer une stratégie de sécurité quand finalement on n'a pas forcément les ressources et les réflexes ?
Oui, alors ça revient à ce que vous disiez. Hein. Je dirais la première étape, c'est faire une bonne cartographie des acteurs, en interne, en externe, donc bien comprendre son écosystème. Ensuite, on va justement aborder les métiers, la cartographie des processus, qui va justement amener à avoir cette notion de risque. Et puis après ça, ben, suivant ses actifs, faire de la veille. Mais c'est tout simple. Faire de la veille, on est proche de la Seine, aller régulièrement sur le site Vigicru, ça passe par là. C'est également la veille, comme écouter les informations avec des sources fiables. L'idée, c'est vraiment de préparer un plan, et pas un plan les extraterrestres débarquent, mais un plan d'indisponibilité des ressources. Voilà. On peut pas se déplacer, on peut pas accéder à tel endroit, qu'est-ce qu'on fait ? Et finalement, le plan lui-même, il ne servira peut-être pas, mais ce qui compte, c'est que la réflexion aura démarré et elle va mettre en place des mécanismes. C'est pas de moi, c'est de Churchill, je paraphrase, mais l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'amorcer la réflexion, et même s'il n'y a pas un directeur sûreté, mais vraiment une démarche collective de tous les membres, tous les acteurs de la direction.
Une question, pardon.
Je voudrais juste terminer par un tout petit livrable aussi, qui est le guide plan de continuité d'activité qui a été fait par le SGDSN et qui aussi est un outil pratiques en ligne utilisables.
Ah, très bien, on pourra aussi peut-être diffuser le lien juste avant que vous n'interveniez. Il y a beaucoup de terminologies, on a parlé tout à l'heure de sûreté, sécurité, on parle de souveraineté, de résilience, vous évoquiez le fait que dans certains autres pays, les terminologies n'étaient pas comprises de la même façon, notamment la sécurité économique, puisqu'on voit que l'Union européenne est en train d'élaborer une stratégie qui recouvre en fait des composantes assez différentes de celles sous lesquelles on rangeait ce vocable. Est-ce que ça perturbe un petit peu finalement votre façon de vous organiser? Est-ce que voilà, il faut juste se détacher des mots finalement et se focaliser en fait sur les risques très pratico-pratiques auxquels vous avez à gérer au quotidien?
Je dirais qu'au-delà des risques, il faut vraiment être d'accord sur la finalité. Donc, des fois, bon, effectivement, il faut écarter la terminologie ou se mettre d'accord sur une terminologie qu'on va utiliser, peut-être imparfaite, parce qu'elle ne va pas être comprise par tout le monde de la même manière si on va vers l'extérieur. Mais au moins en interne, et ça fait partie normalement du framework qu'on va mettre en place, et tous se mettre d'accord sur la manière dont on va utiliser les mots et sur l'intention qu'on a derrière. Qu'est-ce qu'on veut atteindre à la fin. C'est la protection de nos collaborateurs, c'est la continuité de nos activités, c'est la protection de notre réputation. Et donc à partir de là, sur cette intention, je pense qu'on peut vraiment construire quelque chose de cohérent. Mais oui, ça génère pas mal de discussions, effectivement, donc c'est là qu'il est utile de pouvoir se reposer aussi sur des normes ISO. C'est vrai que je l'ai pas mentionné, mais c'est un bon point. Les normes ISO fournissent des définitions imparfaites, mais qui sont quand même bien travaillées, donc sur lesquelles on peut s'appuyer également.
Merci. Je crois qu'on n'a pas de questions. Vous avez peut-être encore une minute ou deux si vous pensez à quelque chose. Marc-Antoine, tu veux conclure? Ah oui, reviens.
Pardon, je voulais revenir sur la question précédente, juste pour ajouter un point, c'est de bien connaître pour les petites structures le cadre juridique. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par Anne, mais également ayez bien connaissance du cadre juridique. Déjà sur la protection des collaborateurs, hein, les jurisprudences Karachi, Jolo, etc. sont extrêmement importantes à connaître. Le devoir de vigilance également, qui donne des responsabilités étendues sur tous ces sujets-là. Donc, en plus de la cartographie interne, de l'identification des risques, bien identifier le cadre juridique dans lequel on opère.
Oui, non, je voulais conclure sur pour vous donner quelques ressources que peut éditer le CDSE. Je vous parlais de l'étude sur les métiers de la filière. Elle est consultable sur le site du CDSE. Le site du CDSE, c'est www.cdse.fr. On a d'autres petites choses qui peuvent être très intéressantes, qui peuvent vous servir de boîte à outils. On a notamment un livre blanc de la fonction sécurité et sûreté en entreprise que l'on a édité en 2022, dont vous avez deux auteurs qui sont assis à ma gauche. C'est 20 articles de fond écrits par des directeurs sécurité et sûreté. Donc une vraie boîte à outils avec 18 recommandations. Anne Picot-Perret qui a écrit un article sur la gestion de crise et l'autre sur la gestion de l'incertitude, le management de l'incertitude en entreprise. Et Aurélien Lambert sur l'avenir de la fonction sécurité et sûreté. Donc je vous incite à le retrouver, à le télécharger sur le site du CDSE également. Et puis récemment, on a alors l'ANSSI a publié un outil d'auto-évaluation. C'est un outil qui est mis à votre disposition, qui est dans le prolongement d'un guide sur la gestion de crise d'origine cyber. Cet outil d'auto-évaluation, le but, c'est de réunir autour de la table l'ensemble des parties prenantes de votre entreprise sur les questions du cyber et de remplir un questionnaire qui est très bien fait par l'ANSSI. C'est présenté sous la forme d'un classeur Excel interactif. Ça prend 3 heures si vous voulez vraiment aller au fond du sujet. Afin d'évaluer votre maturité, votre niveau de maturité en termes de cyber, de gestion de crise cyber, et ça vous donne également des recommandations pour monter en compétences sur ce sujet. Donc ça aussi, vous pouvez le retrouver sur le site du CDSE, mais également sur celui de l'ANSSI. Et puis je vous reparle du colloque annuel du CDSE qui aura lieu le 12 décembre 2022 sur ces sujets de sécurité économique. La billetterie ouvre jeudi prochain, ce jeudi. Merci.
Et ce n'est pas réservé qu'aux membres.
Et ce n'est pas réservé qu'aux membres, bien sûr. Vous êtes bienvenue.
La publicité est complète et on vous adressera tous les éléments. Donc, nous arrivons au terme de ce webinaire. Merci infiniment nos intervenants Anne Picot-Perriac et Aurélien Lambert, ainsi que Marc-Antoine Mandler pour leur partage d'expérience et leurs recommandations très précieuses. Et puis je vous remercie aussi d'avoir été très attentif pour ceux qui étaient de l'autre côté de l'écran pour ce dernier webinaire du cycle sécurité économique de l'Académie MEDEF. Nous reproposerons un cycle en 2024. Donc d'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions et à réagir aussi à ce qui s'est dit aujourd'hui. Je crois qu'un questionnaire va vous être adressé. Merci à tous et puis très bonne journée. À bientôt.
C'était un podcast de l'Académie. Nous tenons à remercier les collaborateurs du MEDEF qui ont œuvré à sa réalisation, ainsi que l'ensemble des intervenants. Retrouvez de nombreux autres enregistrements sur le site l'academiemedef.fr. Merci pour votre écoute et votre fidélité.